Vous êtes sur RTL.
30. RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
12h30, 14h30, 2 heures d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs et bien sûr l'info avec Amandine jusqu'à 13h.
Et bonjour à tous. À la une, cette alerte météo, le Gard qui est en alerte rouge ce midi, l'intérim qui repart et pas qu'un peu. Et puis Johnny Hallyday a désormais sa statue dans Paris.
Éric Zemmour, on s'interrogera sur le phénomène. Est-il un phénomène uniquement parisien, comme le disent certains? Et puis cette polémique autour des prénoms étrangers, que dit la loi? On vous l'expliquera à 12h40.
C'est justement la question du jour sur RTL.fr. Interdire les prénoms étrangers, la proposition d'Éric Zemmour vous paraît-elle xénophobe? Vous répondez oui à 43%. La météo, c'est avec vous, Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine. Bonjour.
Le Gard est donc ce midi en alerte rouge.
Oui, rouge pour orage et pluie, inondation, et en orange en plus pour crue. Les orages sont très violents, les pluies sont très fortes, 184 mm, soit près de 2 mois de précipitations sont tombées en quelques heures. À Saint-Dionysie par exemple, la situation est vraiment critique, donc soyez prudents. Et 6 autres départements sont en alerte orange, pluie, inondation et orage. Ça concerne l'Hérault, l'Aveyron, le Lot, le Tarn-et-Garonne, le Tarn et la Haute-Garonne. Et globalement, les orages vont concerner cet après-midi les régions entre les Pyrénées et les frontières du Nord, mais ils seront moins marqués.
Prudence donc, merci beaucoup Peggy, on y revient tout à l'heure à 13h.
RTL Midi.
Et pour commencer, direction donc l'Accor Arena à Paris. C'est là qu'a été inaugurée ce matin l'esplanade Johnny Hallyday, cérémonie en présence de Laetitia Hallyday et de vous, Steven Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
On a presque eu l'impression de revivre ce qu'on avait connu à la Madeleine il y a bientôt 4 ans, lors de la mort de la star.
Oui, une trentaine de bikers arrivent, moteurs hurlants. Les musiciens de Johnny leur emboîtent le pas. Moment solennel à un bar, a installé une banderole. Un millier de fans se sont réunis devant cette salle où Johnny a chanté 101 fois. La pluie ne les a pas découragés. L'esplanade entre la sortie du métro Bercy et l'entrée de l'aréna porte désormais le nom du rocker Laetitia Hallyday.
Il disait être né dans la rue, n'avoir de compte à rendre à personne. Une vie en mouvement qui nous a bousculés. Et pour que Johnny puisse enfin nous réunir autour de lui, de sa mémoire et de sa musique, ancrée pour toujours dans le sol de Paris, la trace de son passage parmi nous, pour qu'à notre tour, nous puissions la transmettre aux générations futures.
Anne Hidalgo, maire de Paris, lit un message de Laura Smet. Une sculpture se dévoile, un manche de guitare rehaussé d'une moto, une vraie, hein, une Harley Davidson bleue ayant appartenu à Johnny, pour le coup, ça c'est rock'n'roll, devant Christine, venue de Suisse, et Eric du Pas-de-Calais.
C'est un petit lieu de recueillement, c'est sûr, c'est bien sur Paris. Bon, après il y avait la Madeleine, on venait à la Madeleine pendant 2 ans. Mais bon, on a un petit point de repère ici à Bercy surtout. Il y a tellement fait de spectacles ici. Je vais pas venir tous les mois, c'est sûr, mais 2-3 fois par an, oui. Je suis dû à la Saint-Barth, alors Paris c'est pas loin. Hein.
Bah enfin un endroit où se réunir et puis lui parler. Mais au moins ce matin il y a des vrais fans et des gens qui l'aiment. Et c'est ça qui est important.
Merci beaucoup Steven Bellery en direct de ce qu'il faut donc désormais appeler l'esplanade Johnny Hallyday à Paris. On en vient à la crise sanitaire et à la veille de l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour les soignants. La CGT Santé organise aujourd'hui une série de manifestations un peu partout en France. Ils étaient ce matin une centaine réunis devant le ministère de la Santé. Parmi eux, Marina, kiné en région parisienne, est bien décidée à ne pas se faire vacciner.
Ça va être difficile. Après, moi je suis déterminée, je ne souhaite pas me faire vacciner. J'ai pris cette décision en famille, avec mon conjoint. On est prêt à tenir un peu, à s'organiser différemment, à faire des choix financiers, matériels, mais de ne pas aller contre notre conviction en fait. Donc moi j'irai jusqu'au bout et c'est pas a priori dans 2 semaines que je changerai d'avis. Si les choses n'évoluent pas et bah, comme on a des enfants, on a besoin d'avoir des revenus, donc à un moment ou un autre, oui c'est une possibilité que de changer de métier.
Un témoignage de cette kiné donc de région parisienne qui a décidé de ne pas se faire vacciner. Elle était au micro RTL de Nathan Bocard.
Et une vaccination qui patine toujours aux Antilles.
À peine 25% de la population complètement vaccinée selon les derniers chiffres. Il y a 3 semaines, ici même sur RTL, c'est Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, qui appelait, souvenez-vous, les sportifs antillais à se mobiliser.
Moi j'aimerais beaucoup par exemple que des sportifs, on a plusieurs champions olympiques originaires des Antilles, viennent dire publiquement à leur compétition compatriotes, vaccinez-vous.
Le professeur Fischer, qui évoquait notamment Teddy Riner, l'intéressé lui a justement répondu hier soir en marge de la cérémonie organisée à l'Élysée.
Moi, je me suis vacciné parce que je n'avais pas trop le choix. Il fallait que je me prépare tranquillement pour les Jeux Olympiques. Après, c'est des discours, c'est compliqué. Chacun a son point de vue. Il y a un passif très douloureux aussi concernant la Guadeloupe. Donc, on peut en discuter pendant des heures et des heures. Je crois que chacun est libre de faire son choix. Maintenant, moi, je suis pas là pour dire vaccinez-vous ou pas. Je crois que c'est une décision qui doit être vraiment individuelle pour tous.
La réponse de Teddy Riner au micro RTL de Jean-Michel Rascol. C'est l'une des conséquences inattendues de la crise sanitaire. La consommation de chewing-gum est en chute libre. Fridan va supprimer 280 emplois dans son usine de Bischheim dans le Haut-Rhin. 280 sur 350. L'intérim, en revanche, repart. Et c'est la bonne nouvelle du jour. Plus 21,2% sur un an. C'est vous qui nous avez révélé ces chiffres ce matin sur RTL. Martial Youb, bonjour.
Bonjour.
Bonne nouvelle, car on le rappelle, c'est un bon baromètre de l'économie. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, eh bien Paris n'est pas la locomotive en la matière.
Non, effectivement, le tiercé de tête des régions qui embauchent le plus d'intérimaires, ce sont les Pays de la Loire, plus 2,6% de contrats par rapport à 2019, hein, là, c'est-à-dire la dernière année normale, si j'ose dire, au niveau économique. Ensuite, on trouve la Provence-Alpes-Côte d'Azur, plus 2%, et la Nouvelle-Aquitaine, plus 1,4%. En deux ans, la capitale, elle voit le nombre de ses embauches diminuer de 14,4%. Ça s'explique parce que l'économie redémarre dans le transport et la logistique. Ces entreprises sont souvent situé en région et pas à Paris. Vous trouvez aussi la plupart des sites industriels en province. Airbus en Loire-Atlantique et dans le bassin toulousain, Toyota dans les Hauts-de-France. À Paris, il s'agit d'emplois tertiaires qui n'ont pas été supprimés pendant la crise sanitaire. Et puis, autre signe encourageant pour la pérennité des emplois, vous avez près de 50 000 postes en CDI intérimaires qui ont été signés ces derniers mois. Et là encore, on les trouve dans les zones où vous avez de grosses usines ou des entrepôts de e-commerce parce que le travail y est durable. On parle des Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Pays de la Loire.
Merci beaucoup Martial. Martial Youb, chef du service économie de RTL.
Les Républicains réunissent ce matin un conseil stratégique pour évoquer la future primaire de la droite.
Et deux options seront finalement proposées aux adhérents, soit une primaire ouverte aux sympathisants de la droite et du centre avec préinscription, ou formule beaucoup plus restreinte, réservée uniquement aux adhérents de LR. Ce sera d'ailleurs aux adhérents à eux de trancher le 25 septembre prochain. À Marseille, sans doute un nouveau règlement de compte. Un homme de 27 ans, bien connu des services de police, a été abattu hier soir dans la cité de la Bricarde. C'est dans les quartiers nord de la ville. Depuis le début de l'année, au moins 15 personnes sont décédées dans des règlements de compte liés au trafic de drogue dans la ville. Et puis Emmanuel Macron, lui, est ce midi à Roubaix. Le chef de l'État doit clore le Beauvau de la sécurité et annoncer une nouvelle série de mesures. Plus de moyens, mais aussi de nouvelles modalités de contrôle des forces de l'ordre. On vous parlait la semaine dernière de cette famille toujours bloquée à Kaboul. Le père, ancien traducteur de l'armée française, est lui resté à Rennes. Depuis, il remue ciel et terre pour faire rentrer sa femme et leurs trois enfants. Marc Lemont, notre journaliste sur place en Afghanistan, a pu les rencontrer. Giti, 11 ans, lance un nouvel appel.
J'ai peur des talibans qui viennent et on ne peut pas trop sortir. Et je suis triste parce qu'on est bloqué ici. Ma famille, mes tantes, mes grands-pères, ma grand-mère, on est bloqué ici. Et on a peur, on veut vite sortir. Au gouvernement français, je voudrais dire qu'ils nous sortent, parce que c'est très difficile de rester ici. Et je voudrais être avec mon père. Il me manque.
L'appel de Giti, 11 ans, donc depuis Kaboul, elle était au micro RTL de Marc Le Mans. Le chiffre du jour, 2 millions, c'est le nombre de vélos réparés grâce à l'opération Coup de pouce vélo, lancée en mai 2020 lors du premier déconfinement. Bonjour Arnaud Touche.
Bonjour.
Cette mesure, elle s'inscrit dans un plan lancé il y a 3 ans par le gouvernement.
Absolument, avec un premier bilan aujourd'hui détaillé par Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique.
Les déplacements vélos ont augmenté de près de 30% sur l'ensemble du territoire depuis 2019. En ville, bien sûr, plus de 30%, mais aussi dans le périurbain, plus 30%, et en milieu rural, plus 15%.
15 000 places de stationnement pour les vélos ont par ailleurs été créées, et il y a aujourd'hui 30% de pistes cyclables en plus par rapport à il y a 3 ans. Et vous vous souvenez probablement des fameuses coronapistes. Eh bien, justement, elles ont été pérennisées. 80% d'entre elles ont été pérennisées.
Et l'État compte bien poursuivre sur sa lancée.
Exactement. Jean-Baptiste Djebbari, le ministre des Transports, a annoncé ce matin un investissement de 250 millions d'euros supplémentaires pour cette fin d'année, mais aussi pour l'année prochaine. Cet argent, il servira à aménager aménager de nouvelles pistes cyclables, mais aussi à créer des places de stationnement dans près de 1000 gares en France.
Merci beaucoup Arnaud. Arnaud Touche, spécialiste transport ici à RTL. Alors tout le problème actuellement, c'est d'arriver à en acheter un de vélo. Plus d'un an d'attente parfois en cause la pénurie de pièces, comme dans le secteur auto. Et ça devrait durer. Écoutez, François Lucas, c'est le directeur général d'Arcade Cyc qui produit justement des vélos.
Sur le mois d'octobre, il va nous manquer 3 à 4 000 vélos. La crise d'approvisionnement aiguë va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2022 et peut-être un peu au-delà.
Jusqu'à fin 2022 et peut-être au-delà. Des propos recueillis pour RTL par Patrice Gabart.
Le foot et le retour ce soir de la Ligue des Champions avec la Lille. Petite musique qu'on aime.
Lille qui reçoit les Allemands de Wolfsburg. Alors je ne l'ai pas mise la petite musique parce que j'en ai marre de l'entendre moi.
Ah bon?
Non, ouais, à chaque fois on la met, c'est un peu facile. Bon, match compliqué en tout cas pour les Lillois. À la peine, il faut bien le dire, en championnat, le milieu de terrain Benjamin André espère bien enfin inverser la tendance.
C'est une compétition qu'on rêve tous de jouer. On se bat chaque année pour se qualifier en Coupe d'Europe et en Ligue des Champions. On y est, donc se lâcher, avoir beaucoup d'enthousiasme et surtout faire le meilleur résultat possible. On n'a pas de Messi, on n'a pas de Neymar. Nous, notre force, elle est collective, donc voilà, il faut s'appuyer sur ça et la confiance revient vite. Il y a des choses qui ne tournent pas forcément dans notre sens depuis le début de la saison. Il y en a peut-être qu'on avait ce petit coup de pouce. Cette année, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais il faut forcer les choses et jouer un match de Ligue des Champions à domicile, je pense que c'est le bon moment pour inverser les choses.
Et voilà, vous l'avez, votre musique. C'était Benjamin André au micro RTL de Franck Hanson. Wolfsburg, ce sera à suivre dès 21h sur RTL et en fil rouge hein, tout au long de la soirée. Demain, Bruges, PSG en direct et en intégralité avec bien sûr tout le service des sports d'RTL.
Et manifestement, c'est Damien Béchiot qui aime cette musique, qui réalise cette émission pour nous aujourd'hui. Dans un instant, Éric Zemmour est-il un phénomène médiatique et parisien, comme le disent certains? On reviendra également sur la polémique des prénoms à 12h40. À tout de suite.
RTL.fr RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Je pense que la défrancisation est un des problèmes majeurs. Il faut refaire des Français. Il faut refaire des Français. Moi, je vais vous dire, ce qui me gêne, c'est qu'au bout de 3 générations, on appelle encore ses enfants Mohamed. Et je pense que pour les gens qui s'appellent Mohamed, c'est
donc
une
c'est
catastrophe.
Bien les prénoms
parce que c'est un objet de discrimination. Mais je pense que ça a été une erreur aussi d'autoriser les Kevin et les Jordan.
C'était ce matin sur RTL. Éric Zemmour qui plaide pour l'interdiction des prénoms étrangers. C'est l'une de ses propositions phares et c'est le premier débat d'RTL Midi. Avant de débattre, justement, arrêtons-nous un instant avec vous. Julien Fautra, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui en France, les prénoms font l'objet d'un encadrement. Il y a des règles. On se souvient de ses parents qui avaient voulu appeler leurs enfants Djihad ou moins récemment Meghan. Qui décide quoi?
Bien, c'est assez libéral. Il y a peu de parents qui craignent de voir refuser le prénom de leur nouveau-né. Les parents doivent choisir un prénom qui n'interférera pas avec le bien-être de l'enfant. C'est la règle. L'officier d'état civil est tenu d'inscrire le prénom choisi par les parents, quel qu'il soit, que ce soit Pascal, Amandine ou Superman. Charge à lui, l'officier d'état civil, d'alerter ensuite le procureur de la République si ce choix lui semble contraire à l'intérêt de l'enfant. Et si au bout de la procédure, le prénom est jugé inacceptable, ça a été le cas avec Titeuf ou Nutella, les parents peuvent être contraints par la justice de changer ce prénom. Petite précision sur leur orthographe, seul l'alphabet romain peut être utilisé.
Julien, est-ce que dans l'histoire, il y a eu des lois plus restrictives? Éric Zemmour parle par exemple de la loi 1803. C'est quoi ce texte?
11 germinal en 11. 1er avril 1803, en effet, ne pourront être donnés que les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus de l'histoire. Aucune référence au prénom chrétien, puisqu'on évoque les différents calendriers. Je vous ai parlé du 11 germinal en 11. C'est bien parce qu'à cette époque, les prénoms sont aussi ceux du calendrier révolutionnaire, qui est le calendrier en vigueur. Si on prend les prénoms du calendrier à l'époque de cette loi, Rusicule, Vénéfride ou Fraxinette pour les filles, Télésphore et Milan ou Décadie pour les petits garçons, la Sainte-Amandine n'était pas encore le 9 juillet, ni Pascal le 17 mai, ni Julien le 2 août. A noter que cette loi a été une première fois assouplie, c'était par le général de Gaulle, 1966. Les enfants français doivent normalement recevoir des prénoms français, est-il écrit, mais les prénoms étrangers tels que Yvan, Nadine, Manfred, James, oui Nadine, c'est un prénom slave, ces prénoms étrangers sont largement tolérés, c'est la loi 1993. Ensuite, la loi napoléonienne est abrogée, liberté de choix comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la seule limite c'est donc l'intérêt de l'enfant.
Mais ce qu'on apprend avec vous Julien Fautra, et cette phrase c'est différents calendriers, j'ai envie de dire ça ouvre toutes les possibilités.
Bien sûr.
Donc en 1972, lorsque le père de Zidane donne à son fils Zinedine, le prénom Zinedine, la loi de 93, elle n'est pas encore passée. Et pourtant, ce prénom est accepté. Donc j'ai envie de dire, on se demande ce que la loi de 93 a changé.
Je vous ai bien dit tout à l'heure que c'était l'officier d'état civil qui évaluait la situation, qui référait au procureur. Et si ce choix lui semble contraire à l'intérêt de l'enfant, ce qui visiblement n'était pas le cas pour le prénom Zinedine, eh bien, il n'y a pas de procédure.
Et il était dans un calendrier qui n'était pas un calendrier chrétien, j'imagine, Zinedine, mais il était accepté en 72, et c'est ça qui est intéressant, 20 ans avant la loi de 93.
Juste d'un mot, ailleurs, à l'étranger, quelles sont les règles ?
Mais il y a plusieurs exemples qui m'ont intéressé. Il y a le Danemark, c'est très strict. Les parents doivent choisir un prénom parmi une liste de 7000 prénoms de garçons et de filles. Si vous voulez un prénom qui n'est pas sur la liste, il faut une permission spéciale de l'église, puis une approbation du gouvernement. En Islande, pareil, il y a une liste. En Chine, c'est un peu plus mécanique. Les parents doivent choisir des prénoms qui peuvent être lus par des ordinateurs.
Merci beaucoup, Julien. Julien Fautra, pour toutes ces explications avec nous par téléphone et en direct. Abdoulaye Kanté, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Vous êtes policier dans les Hauts-de-Seine et vous faites partie de ceux qui ont été très choqués par les propos d'Éric Zemmour sur RTL.
Bah écoutez, si vous voulez, c'est une phrase qui sort depuis plus de 10 ans, hein, toujours cette même problématique concernant les prénoms. Et comme l'a dit votre interlocuteur, en disant que oui, ça fait depuis 1993, cette fameuse loi de l'an 1800 a été abrogée. Et j'ai envie de dire aussi à ce monsieur que oui, effectivement, moi je m'appelle Abdoulaye, mais qu'est-ce qui est le plus important en fait ? Est-ce le prénom qui fait la valeur de la France ou seulement les personnes qui la composent ? Vous savez, moi, est-ce qu'il serait capable de dire la même chose à, par exemple, à Ahmed Berabet, ce policier qui est mort sous les coups d'un terroriste ? Des frères Kouachi. Est-ce qu'il serait capable de dire ça à monsieur Imed Ben Ziaten, qui, pareil aussi, est mort aussi sous les feux d'un terroriste ?
De Mohamed Merah, c'était en 2012.
Je pense aussi à d'autres personnes qui font la grandeur de la France. On parlait de Zinedine Zidane, ou bien des personnes comme des Mohamed, au contraire à vous, monsieur Mohamed Bouafsi, qui est un journaliste aussi, qui fait aussi beaucoup dans le quotidien des Français. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui ? C'est effectivement de se dire que le prénom ne fait pas la valeur de ce pays, mais plutôt les personnes qui la composent et qui sont prêts évidemment à respecter ces valeurs de la République, etc.
Non, mais ce qui est vrai, c'est que la société a changé. Par exemple, quand Aldo Platini, je crois que c'est l'exemple qu'il donnait ce matin, est venu en France, il a appelé son fils Michel. Peut-être parce que la société française était un peu plus raciste à l'époque et que peut-être Aldo Platini avait peur, pourquoi pas, qu'en appelant son fils d'un prénom italien, il soit rejeté à l'école. Et c'est peut-être aussi pourquoi les parents à l'époque italien demandaient à leurs enfants de ne pas parler italien et de ne parler français. Mais c'est peut-être aussi parce que la société française, elle est plus ouverte et moins raciste qu'elle ne l'était il y a 50 ou 60 ans.
Exactement. Donc, c'est-à-dire que l'identité de la France, elle a changé, mais elle reste quand même française parce que avec l'apport des personnes qui venaient de l'étranger, parce qu'ils ont quand même contribué aussi à la reconstruction française. Donc, cette troisième génération qui est arrivée où certains voulaient quand même ne pas, on va dire, déraciner les personnes. Je vais vous dire une petite chose. Moi, j'ai deux jolies petites filles qui ont des prénoms à consonance étrangère. Mais pour autant, si vous voulez, elles ont la double culture. Je leur ai tendance à leur dire souvent que, vous savez où vous êtes, mais n'oubliez pas d'où vous venez.
Et d'où vous venez, Abdoulaye Kanté ?
Du Mali, d'origine du Mali.
Et vos filles, elles sont aujourd'hui sensibles à cette culture du Mali ?
Elles sont attachées à la double culture, parce que, vous savez, c'est un peu, on va dire, ce qui fait notre richesse. Il y a souvent des personnes qui disent, mais qu'est-ce que tu choisirais entre la France et le Mali ? Mais je pense toujours, je dis toujours souvent, mais est-ce que je te demanderais de choisir entre ton père et ta mère ? C'est pas possible.
Le prénom n'est pas l'homme, nous avez-vous dit sur RTL. Merci beaucoup Abdoulaye Kanté d'avoir été en direct avec nous. Malheureusement, on n'a plus le temps.
Non mais c'est un sujet qui est passionnant et Abdoulaye Kanté, c'était intéressant de l'écouter. Merci monsieur Fautra. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50centimes.fr.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Pour moi, c'est un pur produit médiatique. Personne ne parle d'Éric Zemmour. Même ceux qui sont très lepénistes me disent nous, on votera Marine Le Pen, mais Zemmour, on ne le connaît pas, quoi.
Éric Zemmour est-il un phénomène trop parisien, un phénomène médiatique, comme le dit le maire de Soissons? C'est le deuxième débat d'RTL Midi. Avant d'en parler avec Jean-Daniel Lévy de l'Institut Harris Interactive, écoutez justement ces électeurs de Soissons, une ville que Mourad Jabari n'a pas choisie au hasard pour RTL, puisque Marine Le Pen y est arrivée en tête au premier tour en 2017 avec 28% des voix, François Fillon deuxième avec 20,8% des voix.
Qu'est-ce que vous inspire Éric Zemmour ? Éric Zemmour.
Une maladie ou quoi ?
Ah non, c'est un polémiste.
Ouais, d'accord, je connais pas.
On le connaît pas bien.
Je le sens pas, je le vois pas dans la politique. Ah bah, deuxième tour, j'ai voté Marine Le Pen.
Zemmour n'est pas une alternative à Marine Le Pen ?
Une alternative ? Non, je pense pas.
C'est quelqu'un de très intelligent, hein. Il est très percutant. Il est pas crédible, quoi, en président de la République, voyez-vous.
Bonjour Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de l'Institut Harris Interactive. Alors on a entendu beaucoup de choses hein, dans ces électeurs de Soissons. C'est pas un sondage, mais on est allé voir ce qu'ils en pensaient. Ça n'est pas du tout un sondage et c'est pour ça justement que vous êtes avec nous Jean-Daniel. On a entendu ces électeurs dire « il n'est pas connu, il n'a pas la carrure pour ». Est-ce que c'est ce qui ressort de vos enquêtes à vous ?
C'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'est pas considéré comme ayant vraiment la carrure pour être le futur président de la République. Là où c'est faux, c'est qu'il est connu. Il est connu, il est identifié de la part des Français. Il donne le sentiment que ce qu'il dit aujourd'hui, il l'a toujours dit. Et le fait qu'il soit présent comme étant un polémiste, mais également une personne qui est férue d'histoire et qui est également présente dans les médias depuis de nombreuses années, fait que la notoriété d'Éric Zemmour est relativement importante en France.
Qui vote pour lui ? Des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des Parisiens, des provinciaux ?
Ça a changé. Au début, en fait, au début de la campagne électorale, au moment où on a commencé à sonder Éric Zemmour, quand il était mesuré aux alentours de 5%, il avait un électorat qui était très proche de celui de Marine Le Pen, c'est-à-dire plutôt des personnes jeunes, plutôt des personnes qui étaient issues des catégories populaires et plutôt des personnes qui étaient habitants dans des zones rurales. Depuis quelques jours, depuis quelques semaines, il y a une progression des intentions de vote en faveur d'Éric Zemmour et il arrive à récupérer un électorat qui a tendance à vieillir quelque peu, qui a tendance à s'urbaniser un peu, même si c'est loin d'être un électorat parisien, qui est plutôt un électorat provincial, et qui récupère également une partie des personnes qui sont issues des catégories supérieures, plus que des catégories populaires.
Alors j'ai dit qui vote pour lui, et évidemment c'était un abus de langage, parce qu'on ne sait même pas s'il est candidat, qui voterait pour lui. Amandine, mais je retiens que ce n'est pas un phénomène parisien selon vous.
Vous, Jean-Daniel Lévy, vous disiez ça a évolué. Est-ce que, alors bien sûr, vous n'avez pas de boule de cristal, mais est-ce que ça peut encore évoluer ? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut élargir son spectre d'après les études que vous avez à ce jour ?
Bah, il a déjà commencé à élargir son spectre. Hein. C'est-à-dire qu'au début, il avait un spectre relativement restreint, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, qui était plutôt un électorat pour Fabrice qui était proche du Rassemblement National et qui avait conduit les intentions de vote en faveur de Marine Le Pen de baisser. Depuis quelques jours, il progresse notamment auprès d'un électorat qui a voté pour François Fillon à la dernière élection présidentielle. Et donc, tendanciellement, il peut grignoter des électeurs qui envisageraient de voter pour le ou la candidate soutenue par les Républicains.
Et ça, c'est si l'effet livre, pardon, parce qu'on en parle aussi ou...
C'est l'effet déjà présence médiatique. Hein. Si je pense que vous regardez la manière dont on a parlé d'Éric Zemmour au cours de la dernière semaine, alors même, comme vous l'avez souligné, qu'il n'est pas encore officiellement candidat, il est au centre du débat. Un, pour savoir est-ce qu'il va être présent ou pas. Deux, comment réagit Marine Le Pen. Trois, comment réagissent l'entourage de Marine Le Pen. Et puis quatre, autour de polémiques, comme par exemple la polémique autour des prénoms français.
Bah merci beaucoup, Monsieur Lévy. Il était ce matin, c'était intéressant de l'écouter avec Alba Ventura. Et on va poursuivre évidemment ce débat avec les auditeurs, leur demander ce qu'ils en pensent, d'abord de ce phénomène, entre guillemets, bien sûr Zemmour, mais ce qu'ils pensent également des prénoms. Est-ce qu'il faut en France rester qu'avec des prénoms du calendrier catholique chrétien ou, comme nous le disait Julien Fautra, de prénoms datés de 1803, ou est-ce qu'il faut ouvrir ces prénoms à des prénoms étrangers, comme ça se passe depuis de nombreuses années. À tout de suite.